Donc à l'origine, Dieu a créé le monde parfait. Tout ce qu'il a créé était bon, même très bon. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ainsi que toute la création, vivaient en harmonie, en paix. Ils se trouvaient dans un lieu d'abondance, où ils pouvaient jouir de tout, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la seule condition donnée à l'homme par Dieu. Dieu avait créé un lieu paisible pour l'homme, car son désir était qu'il vive en paix et en relation avec lui. Genèse 3, verset 8 nous dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » Dieu parcourait le jardin vers le soir. On voit ici que Dieu était présent en relation étroite avec Adam et Ève, mais ils entendaient sa voix. Mais suite à leur faute, ils se sont cachés loin de sa face car ils n'étaient plus en paix. Ils avaient brisé cette relation, cette harmonie qu'il y avait entre eux et Dieu. On voit que même après la chute d'Adam et Ève dans l'histoire du peuple d'Israël, la recherche de cette paix reste une réalité. On le lit à bien des reprises, je vais vous donner deux passages. Lévitique 26, 3 à 6 nous dit « Vous habiterez en sécurité, je mettrai la paix dans le pays ». Psaume 35, verset 27, « L'Éternel veut la paix de son serviteur. » La terre promise, Canaan, était un lieu de repos pour le peuple d'Israël qui quittait l'esclavage d'Égypte et donc le labeur. Un nouvel Éden, un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance où régnerait la paix. Deutéronome 8, verset 7 nous dit « L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays ». Un bon pays, cela nous rappelle la création, tout ce que Dieu a créé était bon. Puis dans l'Ancien Testament, Jésus lui-même est présenté comme le prince de paix, déjà dans Ésaïe. Les Juifs étaient d'ailleurs dans l'attente de ce Messie qui viendrait les sauver et leur accorder la paix, le repos. Aujourd'hui, qu'en est-il pour nous? Je vais prendre un passage des Hébreux 4. Hébreux 4, du verset 1 à 11. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour, et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et dans ce passage, il dit encore « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer, et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et miel et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc depuis la création du monde, un lieu de repos est le plan de Dieu pour nous. Un lieu où nous nous sentons bien, en sécurité, en paix, en liberté. L'homme aujourd'hui n'échappe pas à cette réalité et on voit bien que chacun se démène et cherche à créer son petit cocon, son lieu de sécurité, de bien-être. Je relève deux dimensions à la paix. Il y a la paix géographique, la paix entre les hommes, je dirais celle qui se ressent autour de nous. Dans un pays en paix, nous ne sommes pas inquiétés par la guerre. Lévitique 26, 5 à 6 nous dit « Vous habiterez en sécurité dans votre pays, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. » Et deuxième dimension, il y a la paix personnelle, celle qui est à l'intérieur. Cette paix, elle ne dépend pas des circonstances. Philippiens 4, verset 7 nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bien souvent, la paix, cette paix intérieure dépend des circonstances qui nous environnent, mais la parole de Dieu nous dit que justement, si Dieu nous accorde cette paix, peu importe qu'il y ait des guerres autour de nous, notre cœur restera en paix. Donc cette paix, elle n'est pas liée à ce qui nous environne, mais elle est liée à notre état de réconciliation avec Dieu, à notre harmonie avec Dieu, comme Adam et Ève dans le jardin, quand ils n'avaient pas encore désobéi, ils étaient en relation avec Dieu, ils parlaient avec Dieu, et ils étaient en harmonie avec Dieu et tout ce qu'il avait créé. Ésaïe 26, verset 3 nous dit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Maintenant, je viens donc de parler de paix, mais est-ce que vous pouvez me donner des antonymes, des contraires du mot paix ? Un mot contraire du mot paix ? Guerre, ouais. Trouble, tourment, angoisse, discorde, dispute, querelle, colère, agitation, inquiétude. Voilà, il y a pas mal d'antonymes, il y a pas mal de contraires du mot paix. Et donc, bien que Dieu veuille pour nous la paix et le repos, il arrive que cette paix puisse être troublée. Survient alors l'inverse de la paix. L'agitation, le désordre, le trouble, les conflits, les guerres. Matthieu 13, versets 24 à 29. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. On retrouve ici encore le mot « bon ». Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ?» D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela, et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'en déraciniez en même temps le blé. Donc, une bonne semence, mais on voit que l'ennemi vient y semer de l'ivraie, de la mauvaise semence qui va pousser avec. Si Dieu est à l'origine de la paix, l'ennemi, le diable, lui, sème le trouble. Donc c'est lui dans le jardin d'Éden qui vient tenter la femme sous la forme du serpent et il va la faire douter sur ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il vraiment dit ? Combien de fois cela nous arrive-t-il aussi ? Dieu a-t-il vraiment dit ? Si tu fais cela, est-ce que ça va vraiment fâcher Dieu ? Est-ce que c'est vraiment désobéir, etc. Et donc Ève, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va du coup goûter au fruit défendu et en faire manger à son mari aussi, qui en mangera. Et donc Satan, il vient ici rompre la quiétude du jardin. Et c'est aussi lui, par toutes sortes de stratagèmes, les dieux étrangers, la colère, le doute, les tentations, les troubles, etc., qui va détourner le peuple d'Israël et qui viendra rompre la paix du pays. Et il procède de la même manière dans nos vies. Il vient semer l'ivraie là où Dieu crée de bonnes choses, là où Dieu a planté, a semé de bonnes choses. L'ennemi, on nous dit dans Jean 10:10 que c'est le voleur qui vient dérober, égorger et détruire, en comparaison de Jésus qui donne sa vie pour ses brebis et qui nous offre une vie en abondance. Nous avons lu plus tôt dans Hébreux 4, c'est notre désobéissance qui nous empêche d'accéder au repos. C'est une réalité que je vis, que chaque croyant vit aussi dans sa vie, je suppose, j'en suis certain, d'autant plus lorsque l'on fait de grands progrès avec Dieu, quand on avance avec le Seigneur et qu'on a envie, qu'on a donné notre cœur au Seigneur et qu'on a envie de progresser avec Dieu, il y a toujours des circonstances, des tentations, des choses qui viennent nous faire chuter. La semaine dernière, je parlais avec Bagdad d'un souci personnel et il me disait, tu sais, le diable, c'est un petit malin. Et donc, il me faisait remarquer que c'était un pléonasme parce que diable, petit malin, voilà, vous avez compris. Et le diable, c'est un petit malin parce qu'il sait comment faire pour nous faire trébucher. Et pour lui, c'est facile parce que pour nous, les tentations, etc., c'est quelque chose qui sont faciles. Et donc, du coup, il sait cibler pour nous faire chuter, ce qui va nous faire chuter. Lui, il vient dérober ce que la grâce de Dieu nous a acquis. Alors, on est actuellement en train de regarder une série qui s'appelle Vikings. Et les Vikings, c'était un peuple de conquérants de Scandinavie du Nord. Et ce genre de série, C'est pour moi toujours un peu l'occasion de replonger un peu dans l'histoire et de me remettre un peu dans un contexte de comment ça se passait tout à l'époque et comment les gens vivaient tout ça. Et je ne peux pas m'empêcher, quand je regarde ce genre de film un peu historique ou quand je regarde des films bibliques, etc., historiques, de me replonger dans le contexte et de faire des similitudes entre ce que je lis dans la parole de Dieu, ce que je vis et ce que je vois du coup dans ces films. Et en regardant cette série, je m'imaginais ce que cela devait être au temps du peuple d'Israël, au temps des conquêtes et des combats. Seulement, voilà, quand on prend un territoire, quand on gagne un territoire, on devient plus fort. Mais on suscite aussi forcément la jalousie, l'envie, et on se fait donc des ennemis. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on se fait attaquer de nouveau. Et donc, il faut attaquer pour reprendre le territoire qui nous a été repris, que nous avons pris. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux. Vous voyez, c'est, voilà, on gagne du territoire, mais en même temps, on s'en fait prendre et on se fait attaquer. Donc, dans la vie chrétienne, n'est-ce pas pareil ? Quand nous gagnons du terrain, l'ennemi n'aime pas, et on l'a chanté aussi dans le premier chant, le diable redouble d'efforts pour reprendre le territoire que nous avons acquis par la grâce de Dieu. Donc c'était pour le cas du peuple d'Israël, et quand le peuple, on le voit, quand on lit dans l'Ancien Testament, quand le peuple gardait les commandements de Dieu, quand il gardait ses prescriptions, quand le roi faisait ce qui est droit aux yeux de Dieu, Israël était en paix. Mais quand le roi faisait ce qui est mal aux yeux de Dieu et que le peuple se détournait de ses prescriptions, alors Dieu n'était plus avec eux. Et ils se retrouvaient alors en guerre, en conflit, assujettis à d'autres peuples. Cela m'a aussi fait penser à cette histoire où lorsque Moïse levait les mains vers lui, quand Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Et je me suis dit un petit peu, c'est un petit peu comme nous en fait. Quand on regarde à Dieu, qu'on lève les mains vers Dieu, quand on est proche de lui, c'est là que nous sommes le plus forts. C'est là qu'on remporte des victoires. Mais quand on se fatigue, quand on baisse, quand on est détourné de Dieu, et ben c'est là qu'on perd. Qu'on perd ces terrains, ces territoires que nous avons gagnés. Et ce matin, ce que je voulais t'encourager à faire, c'était à ne rien céder à l'ennemi. Ne laisse pas l'ennemi te dérober. Je veux t'inviter à combattre parce que pour conquérir un pays, il faut livrer bataille. Job 7, verset 1 nous dit « Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. » Psaume 144, verset 1 « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » C'est une réalité, frères et sœurs, quand on est chrétien, on devra livrer des batailles. Et ça, toute notre vie de chrétien. Vous savez, je suis convaincu vraiment, au début je pensais que la vie chrétienne elle serait facile. C'est un peu des fois le tableau qu'on nous donnait. Mais je suis convaincu que la vie chrétienne elle n'est pas facile. Et je vais vous dire, je ne vois pas comment cela pourrait être autrement. Pourquoi le caviar coûte-t-il si cher ? Parce que c'est une denrée rare et que sa production est lente. Sachez qu'il faut attendre 3 années d'élevage pour connaître le sexe de l'esturgeon et savoir si c'est bien une femelle. Il faut ensuite élever l'esturgeon pendant plus de 6 ans avant que les femelles ne produisent des œufs. Et un esturgeon ne donne en moyenne seulement 10% de son poids en caviar, ce qui est très peu. C'est ce qui fait le prix du caviar. Le safran. Sa production demande beaucoup de patience et de longues heures de travail manuel pour extraire les petits pistils de chaque fleur, sachant qu'il faut environ 150 fleurs pour obtenir 1 gramme de safran sec. La truffe. On n'en trouve pas partout et il faut savoir la dénicher. Et ça, c'est valable pour bien d'autres choses. Il y a bien d'autres exemples qu'on pourrait donner, les perles, etc. Machin. De manière générale, tout ce qui est précieux est dur à produire. Comment pourrait-il en être autrement de la vie chrétienne ? Connaître Dieu est quelque chose de précieux. C'est un grand trésor qu'il faut défendre. Être chrétien n'est pas tous les jours facile dans le monde de volupté qui nous entoure, mais le jeu, le combat, en vaut la chandelle. Et je vais reprendre 2 passages dans les messages de Jean et de Samuel, parce que je pense vraiment que l'Esprit a une lignée, une ligne directive qu'il conduit, et en préparant ce message, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et je vais reprendre du coup les 2 passages. Le passage de Jérémie 15, versets 18 à 20. « Pourquoi ma douleur est-elle continuelle et ma blessure incurable ? Elle refuse d'être guérie. Serais-tu vraiment pour moi une source trompeuse, comme des eaux sur lesquelles on ne peut pas compter ? C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel, si tu te retournes, alors je te ramènerai. » Tu te tiendras debout devant moi, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. Qu'ils retournent vers toi, mais toi ne retourne pas vers eux. Et je te rendrai pour ce peuple comme une muraille de bronze, imprenable. Et ils te combattront, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. Et la semaine dernière, Samuel nous partageait le psaume 73 que je vais relire en entier. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mais pas été sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à ce que leur mort et leur corps prennent de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avides comme de l'eau et il dit « Comment Dieu pourrait-il savoir ? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut ? Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, je suis repris. Si je disais « Je veux parler comme eux », alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite, tu me conduiras par ton conseil, tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte, tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu, je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu as fait. Donc comme je vous disais, après avoir relu et en préparant ce message, je discernais une ligne directive, une prescription de la part de Dieu. Et ça, c'était pour moi, mais je suppose que le Seigneur vous parlera à vous aussi. Attachez-vous à Dieu. C'est ce qui nous permettra de conserver nos territoires gagnés et d'assurer la conquête, la reconquête de ces territoires perdus. S'attacher à Dieu. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos que le Seigneur nous a déjà acquis à la croix. Car notre Dieu est vainqueur, c'est une certitude. Même si nous vivons encore aujourd'hui des combats, Dieu est vainqueur. Il a gagné à la croix et il nous donne déjà le repos dans lequel nous pouvons entrer. En lui, nous avons la victoire, mais ce repos commence lorsque nous le laissons poursuivre son œuvre bonne et parfaite en nous. Colossiens 1, verset 20. Il a voulu pour lui réconcilier tout avec lui-même. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Là où l'ennemi est venu mettre le trouble dans le jardin d'Éden, Jésus est venu réconcilier, apporter la paix par le sang de la croix. Et pour cela, c'est le passage qui m'a fait travailler sur cette prédication. C'est le passage de 2 Rois 6, versets 8 à 23. Il y a pas mal de lectures aujourd'hui, mais bon, de toute façon, il vaut mieux que ce soit la parole de Dieu qui soit lue que mes paroles à moi qui soient dites. Donc 2 Rois 6, versets 8 à 23. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Attention, ne passe pas par cet endroit, car c'est là que les Syriens t'attendent, descendent. » Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, mon seigneur le roi, c'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez repérer où il est et je le ferai capturer. » On vint lui dire, il est à Dothan. Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Après, ça continue. Et après, l'Éternel va frapper d'aveuglement, d'ailleurs, le peuple de Syrie. Et il va leur ouvrir les yeux par la suite. Mais donc, on voit ici Élisée et son serviteur qui se font environner d'une armée. Et le serviteur d'Élisée, il dit, mais comment on va faire ? Et Élisée prie le Seigneur qu'il lui ouvre les yeux. Et quand le Seigneur ouvre les yeux du serviteur d'Israël, il voit les anges et l'armée céleste qui les environne, qui sont avec eux, et donc ils sont, ne t'inquiète pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Nous aussi, dans notre vie de chrétiens, nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux. Dieu nous a déjà ouvert les yeux parce que nous étions aveugles, et nous marchions sans guide, mais Dieu nous a déjà ouvert les yeux, mais parfois il faut aussi nous rouvrir les yeux pour que l'on puisse voir et que, en fait, nous ne sommes pas tout seuls. Parfois, on ne voit pas tout ce que Dieu fait autour de nous, on a l'impression des fois d'être esselé, etc. Mais on a besoin du Seigneur qui nous ouvre les yeux, parce que quand on est découragé, quand on a peur, quand on est face aux difficultés, eh bien, le Seigneur nous dit, « N'ayez pas peur, car ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Je donnerai quelques conseils. Pour terminer, avant un dernier passage que je vais lire qui résume aussi un petit peu là, ce que je vous ai partagé. Premier conseil, assure-toi de la présence de Dieu dans ta marche, et ce, quotidiennement. Fais le plein de provisions. Alors qu'ils allaient entrer dans le pays de Canaan, Josué, 1 verset 11, dit « Parcourez le camp et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. » Préparez-vous des provisions, faites-vous des provisions, soyez prêts pour que vous ayez la présence de Dieu avec vous dans votre marche quotidienne. Il faut aussi, deuxième chose, se détacher du passé, car Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est vrai que le passé ressurgit régulièrement dans nos vies, et nous sommes des nouvelles créatures, et il faut se le rappeler, le Seigneur fait toutes choses nouvelles, il fait toutes choses bonnes, et donc il faut se détacher de ce passé qui nous colle parfois pour regarder au Seigneur et qu'il puisse nous ouvrir les yeux. N'aie pas peur, car Dieu promet de combattre pour toi. Josué 1, verset 9 nous dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Le Seigneur est de notre côté et donc nous n'avons pas à avoir peur, parce que l'armée de Dieu est avec nous. Nous sommes dans le camp de Dieu. Et donc, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Et je voudrais finir par un dernier passage. Je vais prendre le chapitre, mais je vais demander à Jean si tu veux le lire bien fort, par exemple, parce que je commence à avoir mal à la gorge. Donc, c'est Deutéronome 8. Et donc, réfléchissez à tout ce qui a été dit. Et vous allez voir que ça résume aussi, justement, ce qui a été partagé. Et donc, cet ordre de s'attacher à Dieu et de rester fidèle à Dieu, afin que nous puissions conquérir le pays et assurer la paix dans notre pays, conquérir notre propre Canaan, comme on l'a chanté aussi tout à l'heure, et que vraiment le Seigneur puisse être avec nous dans ses batailles, dans ses conquêtes. Oui, s'il te plaît.
Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, de pays d'olivier et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras pas de, où tu manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailleras l'airain. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, et que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, et que tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce que tu as à toi, prends garde à ce que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnue de tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations parce que l'Éternel fait périr devant vous parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu.
Tant de similitudes avec notre vie de croyant, le fait de suivre l'Éternel, de garder ses prescriptions, de se souvenir de là où le Seigneur nous a tirés aussi, de ce que nous étions avant de connaître le Seigneur. Et vraiment, on le voit aussi, même au-delà de ce qui peut se passer, de l'abondance qui peut nous environner, n'oublions pas l'Éternel, parce que c'est de lui que vient toute bonne chose, et c'est lui qui veut nous donner encore plein d'autres choses avec abondance, et nous avons aussi cet espoir qui se profile devant nous, le repos que nous aurons aussi avec Dieu, quand nous serons avec lui, pour toujours dans l'éternité. Alors, je vous encourage vraiment à conquérir ou à reconquérir ce pays, les territoires que vous avez perdus par la grâce de Dieu, et que, au travers de cela, vous puissiez avoir cette paix que le Seigneur vous donne. Voilà. Amen. Gloire à Dieu.